Chapitre 37.
La case du Malbar.
11h41.
Encouragée par la lumière du soleil au zénith, Liane agite ses jolis petits seins blancs au-dessus de la barbe naissante de Martial. La belle chevauche son mari, les muscles de ses longues jambes tendues jusqu'à en faire sauter son string rouge. Le bienheureux Martial, allongé sous elle, ne semble plus savoir sur quelle partie de peau poser les mains. Sur ce ventre plat, sur ce dos trempé d'huile et de sueur, sur ses fesses rondes, ou céder de sa bouche et embrasser sans reprendre son souffle ses tétons offerts, ses lèvres, noyées sous une cascade de cheveux blonds. Martial bande, la photographie agrandie en format A3, ne laisse aucun doute sur ce détail. La petite sofa joue dans le sable 2 mètres plus loin, à l'ombre d'un palmier. Et les bélions sont seuls sur la plage de sable noir, celle de l'étang salé. Imelda a immédiatement reconnu le site. Un instant de bonheur. Qui a pu prendre cette photo ? Imelda se recule 1 mètre et répète dans sa tête cette simple question. Qui a pu prendre ce cliché, ainsi que ces dizaines d'autres photos de la famille Bélion, punaisées sur les murs de cette case crasseuse ? Imelda en a compté 37, imprimées en format A4 et A3. L'étrange exposition donne l'impression qu'un paparazzi a espionné chaque instant de la vie des Bélions depuis leur arrivée sur l'île de la Réunion. Les photographies ont visiblement été prises avec un zoom puissant, à l'insu de Martial et Liane. À la terrasse d'un restaurant à Saint-Gilles, place du marché, devant le temple hindou du Colosse à Saint-André, devant un présentoir de cartes postales dans la rue centrale d'Elbourg. Mais le plus souvent, ce sont des plans fixes de la petite sofa qui ont intéressé le photographe anonyme. Des gros plans troublants sur ses yeux bleus de poupée, sur ses taches de rousseur, ses fossettes naissantes, comme n'importe quelle gamine victime consentante de l'invention de l'appareil photo numérique, pense Imelda. Sauf que l'auteur de ces clichés n'a pas pris la peine de demander à Sofa de poser. Pourquoi ? Tout en réfléchissant, Imelda contrôle régulièrement par la fenêtre que rien ne bouge dans la rue, puis fait le tour de la case. Le repère du Malbar au 4x4 noir ressemble à un appartement réquisitionné dans l'urgence. Les 2 pièces, la salle et la chambre, sont à peine meublées. 2 chaises pliantes et une table de formica, un matelas jeté par terre, des provisions empilées sur l'étagère d'une penderie dissimulée par un rideau sale, des conserves, des pâtes, du riz. Un réchaud à gaz est posé en équilibre instable sur l'évier. Les poubelles débordent de cartons de pizza et de canettes de soda vide. Contre le mur, 10 jerrycans d'essence sont alignés. Pour alimenter quoi ? S'interroge Imelda. Le moteur d'un hélicoptère ? Celui d'un 4x4 qui irait se perdre 2 semaines dans les hauts ? C'est la planque d'un criminel en fuite, presque banal, à l'exception de ses photographies. Tout pousse à croire que c'est ce Malbar qui a joué les paparazzi. Elle avait raison. Son Chevrolet Captiva noir ne se trouvait pas par hasard sur le parking de l'hôtel Alamanda le jour des crimes. Imelda sent l'excitation monter encore. Elle adore ce moment où elle doit classer les informations avec ordre. Elle a juste besoin d'un peu de concentration pour reconstituer le puzzle. Raté. Une sonnerie brève et stridente lui indique qu'elle vient de recevoir un message sur son téléphone portable. Elle peste puis lit. « Ça roule, mam, j'assure un max. J'ai mis Dory et Joel à la popote. Prends ton temps. » Imelda sourit, presque déçue au fond que sa marmaille se débrouille si bien sans elle. Elle tape une brève réponse tout en se reconcentrant sur l'affaire Bélion. Le Malbar a-t-il agi pour son propre compte ? Est-il payé pour espionner les Bélions ? Un détective privé, par exemple ? Peu importe. La véritable question est ailleurs. Pour quelle raison espionner les Bélions ? Pour les faire chanter ? Par désir de vengeance ? Par jalousie ? Le champ des possibles est infini, tout comme l'identité du commanditaire. Un proche de la famille ? Un malade mental qu'ils auraient croisé ? Ou pourquoi pas Liane Bélion elle-même ? Il existe une multitude de raisons qui peuvent pousser une femme à espionner son mari, surtout lorsque celui-ci possède un passé trouble et une réputation sulfureuse. Imelda fixe un cliché de Liane Bélion, assise à la terrasse d'un bar, sans doute sur le port de Saint-Gilles. Jupe courte de madras, dos nu, nuque dégagée de ses cheveux blonds par la grâce d'un chignon improvisé, appétissante. À moins que ce ne soit l'inverse, raisonne Imelda, que ce soit Martial Bellion qui doutait de la fidélité de sa femme. Mais pourquoi alors demander au détective de se concentrer sur des clichés familiaux? Pourquoi le demander à un malbar? Un malbar qui habite dans ce quartier pourri. Imelda repense au dossier qu'elle a lu dans le bureau de la BTA, au témoignage convergent des employés de l'hôtel Alamanda contre Bellion. L'hôtel Alamanda a été fondé par des malbars, les Purvis, une dynastie dont la capitaine chargée de l'enquête est la dernière héritière. Encore une coïncidence ? Avant de s'avancer dans la seconde pièce, une chambre qui ne comporte aucune fenêtre, Imelda observe encore la rue. Tout semble normal. Le chien continue de traîner, de renifler et d'ajouter son urine à la crasse ambiante. Les gosses qui jouent au foot entament au fond de l'impasse leur 13e mi-temps. Imelda sursaute soudain. Une sonnerie, un nouveau message sur son portable. « On assure la pluche. Il y aura même du curry pour ce soir. T'es épatée, j'espère. Prends plein de plaisir. » Imelda frissonne à la lecture du SMS. Nazir est un brave garçon au fond. Il ne lui manque qu'un père pour lui foutre des coups de pied au cul de temps en temps. Avec précaution, elle se penche et soulève les draps sales, puis le matelas. Un sentiment de triomphe explose en elle. Un sac à main est dissimulé entre le lit et l'angle du mur. Il y a peu de chances qu'il appartienne au malbar. Fébrile, Imelda l'ouvre. Ses doigts et ses yeux dressent l'inventaire. Un rouge à lèvres carmin, un tube de gloss, un portefeuille Lancel dont le contenu est éparpillé. Les mains d'Imelda fouillent, piochent au hasard, extirpent une carte d'identité, une carte bleue, un passe Navigo. Tous au nom de Liane Bellion. Les neurones se connectent dans le cerveau d'Imelda. Des tiroirs s'ouvrent pour y ranger les hypothèses. Martial Bellion a-t-il dissimulé ici le cadavre de sa femme? A-t-il chargé le malbar de ce travail sordide? Ou bien tout le monde se trompe-t-il depuis le début? Liane Bellion n'a pas été assassinée à l'hôtel. Elle a maquillé sa fuite en assassinat et s'est réfugiée ici, dans cette case, pendant que toutes les polices de l'île recherchaient son cadavre. Pourquoi? Pour y attendre qui? Pour disparaître à nouveau? Les doigts d'Imelda, prêts à rechercher d'autres indices dans le sac, s'immobilisent soudain. Le chien aboie dans la rue. L'instant suivant, elle entend le ronronnement d'un moteur ralentir devant la maison. Elle reconnaît distinctement le son d'une grosse cylindrée équipée d'un double pot d'échappement. Un 4x4. Pas besoin de risquer un œil par la fenêtre pour deviner qu'il est noir et conduit par un malbar coiffé d'une casquette kaki. Elle range en toute hâte le sac à main dans sa cachette, puis se précipite dans la salle. D'un regard circulaire, elle vérifie qu'elle n'a rien dérangé et recherche un endroit pour se dissimuler. Elle n'en repère qu'un, improbable, la penderie. Elle tire le rideau avec rage et évalue le casier haut et droit qui sert à ranger le balai. Imelda est deux fois plus large, mais pourtant, sans même y réfléchir, elle s'y engouffre. Sa peau flasque racle les parois, se gonfle, se bloque en un bourrelet. Imelda, au bord des larmes, s'accroche à une patère et tire de toutes ses forces. Sa peau racle le bois, le tissu de sa robe se déchire de part en part, mais centimètre après centimètre, sa chair finit par glisser, s'aplatir contre les planches froides comme une pâte épaisse qui épouse jusqu'à déborder la forme d'un récipient trop peu profond. D'un geste désespéré, elle referme le rideau sur elle et guette avec effroi le mouvement qui l'agite pendant quelques trop longs instants. Imelda retient son souffle. La porte de la case s'ouvre. À travers la pénombre du rideau, elle ne distingue qu'une ombre trapue qui marche lentement dans la pièce. Les bruits successifs sont plus explicites. Un sac jeté sur la table, la porte des toilettes qui se referme, une chasse d'eau, un filet qui coule dans l'évier en inox, quelques gouttes encore, puis le silence à nouveau. Imelda bloque sa respiration. Les pas tournent dans la pièce, passent devant le rideau sans ralentir, puis s'éloignent vers la chambre. Une apnée de près d'une minute. Imelda reprend sa respiration. Ses aisselles et son pubis sont inondés d'une sueur âcre. Elle tend l'oreille et croit reconnaître le frottement de tissu, le choc mou de vêtements qui tombent au sol, le bruit sec et bref d'une fermeture éclair, peut-être celle d'une valise. Comme si le malbar changeait de vêtements. Les secondes se succèdent, interminables. Les bruits de pas se rapprochent à nouveau. Un souffle. Le rideau tremble, caresse le ventre d'Imelda. De l'eau à nouveau dans l'évier. Un bruit de verre contre l'inox. Le sac qui glisse sur la table. Puis les pas s'éloignent. La porte claque. Plus rien. Imelda attend. Tous les sens aux aguets. Longtemps. Une éternité. La case est silencieuse. Il lui semble presque entendre le cri des gosses au loin, dans la rue. La Caffrine ne bouge toujours pas. Elle n'a identifié aucun bruit de moteur dans la rue. Le Malbar est encore là, tout près. Elle doit rester dissimulée derrière le rideau. Avec d'infinies précautions, elle sort le téléphone portable de sa poche. Elle a pris sa décision. Elle doit contacter Christos. Elle ne court aucun risque. Son téléphone n'émet aucun son lorsqu'elle envoie un texto. Seulement quand elle en reçoit. La sonnerie explose soudain dans la pièce. Les yeux d'Imelda se baissent, pétrifiés, comme hypnotisés par l'écran rétro-éclairé. On a fini, tout nickel. T'es fière de nous, mam? Tu sais où sont les torchons? Et les clés de la case? Et le zamalque d'Eric a planqué? Le message arrache un sourire étrange à Imelda. Elle se trompait. Sa marmaille ne peut pas se passer d'elle. Sa dernière pensée. Le rideau s'ouvre d'un coup. L'ombre se tient devant elle. Un couteau de cuisine à la main. Imelda tente de se dégager, vainement. Elle est entrée libre et vivante dans un cercueil trop étroit pour elle. Elle sent d'abord la douleur dans son cœur, intense et brève. Ses mains cherchent à agripper le rideau, mais se referment dans le vide. Elles se crispent, tétanisées pendant de longues secondes, puis finissent par retomber, molles et flasques, comme deux feuilles fanées au bout de deux branches mortes.